J'aimerais vous partager ce soir une réflexion sur la présence comme refuge, ou la pleine conscience, ou l'attention. Parce que la pleine conscience, c'est ce que nous pouvons volontairement contacter pour être libre. Il y a beaucoup de réalisations qui sont une grâce, je ne peux pas les vouloir, mais je peux vouloir être là, je peux le vouloir maintenant. Et cette conscience éveillée, cette conscience qui n'est pas juste une conscience ordinaire, quand je me réveille, voilà, je suis moi, on pourrait dire, mais je ne le sais pas. Il n'y a pas cette conscience pleine. C'est le point de départ de ce chemin intérieur qui mène à la compréhension du qui suis-je et à la possibilité d'avoir cet ancrage dans autre chose que ce qui est impermanent, limité et par définition souffrance. C'est le début, c'est aussi, donc c'est la clé. Et c'est beau parce que dans le bouddhisme, nous n'avons pas besoin d'avoir la foi, nous n'avons pas besoin d'avoir des préliminaires quelconques. Tout le monde peut être là. Et c'est aussi le point le plus important, c'est celui qui nous accompagne durant tout le chemin. Nous employons Sati comme éclairage dans notre vie. Et c'est aussi le point culminant. Au fond, l'éveil ne peut être que ici et maintenant. Il n'y a pas d'éveil ailleurs qu'ici et maintenant. Donc on pourrait dire que c'est le point de départ, que c'est le point essentiel, puisque c'est notre outil. On parle souvent de Sati comme étant le chef. Et c'est le point culminant, parce qu'au fond, c'est le but. J'y suis. J'y suis. Il n'y a rien d'autre que ça, maintenant. Il n'y a jamais rien d'autre que ça. Le problème, c'est que nous ne le savons pas. Il y a cette petite histoire que je raconte souvent parce qu'elle est jolie, le fils d'un maître zen qui lui dit souvent: mais enfin, papa, tu pourrais quand même m'expliquer ce que c'est que le nirvana, ce que c'est que l'éveil. Puis son papa lui dit: mais non. Puis il insiste. Alors pour finir, son père lui dit: bon, ben alors je vais te dire, tu vois, c'est comme si pour entrer dans une maison, tu vas chercher une échelle, tu montes sur le balcon, tu fracasses le volet, tu casses la vitre, enfin tu es dedans, et puis une fois que tu y es, tu te rends compte que la clé était sur la porte. Donc tout le chemin de développement, il ne sert qu'à une seule chose, c'est à ça. Il n'y a rien qui va changer, tout va être pareil. Il y a juste ça. La manifestation de la libération ne peut qu'être maintenant et là où je suis. Je suis l'outil d'expression du nirvana. Cette pleine conscience ou l'attention, elle a deux fonctions. Elle rend la conscience pénétrante et claire, et elle lui donne une qualité d'impartialité, pour que je puisse, ou d'objectivité, pour que je puisse vraiment rencontrer l'instant, Il faut qu'il y ait cette puissance ou cette constance de présence et cette qualité d'ouverture du cœur qui fait que je veux bien tout rencontrer. Et je peux tout rencontrer. Et c'est ce qui se développe, c'est cette conscience de plus en plus claire, de plus en plus prête. Sati veut aussi dire le souvenir. Je me souviens de plus en plus souvent d'être là. Et je prends les choses de plus en plus objectivement. C'est-à-dire que je suis de moins en moins souvent identifiée et submergée par le problème, hein, mon problème. Le problème, c'est que je ne veux pas de problème. Mais du moment que je m'ouvre au problème, il n'y a plus de problème. Sati, elle a cette fonction d'unifier et de lâcher. En même temps, il y a cette qualité de bienveillance et de distance. En même temps, je suis intime dans l'expérience et je sais avoir le regard de l'aigle. J'ai pas le nez dedans. Je suis distante là, mais profondément dans le ressenti de l'expérience. Et c'est ça que nous appelons vipassana, voir les choses telles qu'elles sont, ou les sentir telles qu'elles sont. Je veux peut-être vous lire ces quatre fondements dans le texte, un tout petit peu simplifié à peine. Il y a donc quatre fondements de la présence. Le premier, c'est le corps. J'espère que vous y êtes juste maintenant. Le deuxième, c'est le ressenti. Est-ce que juste maintenant, c'est agréable, désagréable ou neutre? Le troisième, c'est ce qui s'appelle citta en pali. C'est tout ce fonctionnement où le corps, le ressenti et la pensée, et le psychique, les émotions, crée l'expérience. Et le quatrième, c'est tous ces outils de sagesse que nous avons comme les quatre vérités nobles, les cinq agrégats, les cinq khandhas, les cinq obstacles, les facteurs de l'éveil. Ce sont tous, toutes des, ce sont des concepts qui aident sur le chemin et qui, à un moment donné, peuvent être lâchés. Hein? Parce que le but de cette connaissance, c'est le lâcher prise. Alors le Bouddha dit à ses moines, Bhikkhu, voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un corps, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple ses ressentis comme des ressentis, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a des ressentis, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple son esprit comme un esprit, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un esprit, est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple le monde intérieur et extérieur comme un monde. Alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience, il y a un monde, est établie indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Pour le quatrième fondement, c'est le lâcher prise de tous ces outils de sagesse fait que spontanément la conscience accueille tous les phénomènes. C'est pour ça que la traduction, c'est souvent le monde ou les phénomènes, tout ce qui vient, il n'y a plus de discrimination. Le corps comme un corps, plus d'identification. Juste ça, l'espace, le silence. Et alors la vie est à sa place. La vie est perçue comme impermanente et elle n'est pas valorisée ni plus ni moins que la mort. De même que la sagesse et l'ignorance deviennent des complémentarités, l'un n'est pas sans l'autre. Donc c'est la fin de ce paradoxe ou de cette dualité où nous opposons les choses. On pourrait dire que c'est ce que les chrétiens appellent la foi. Non pas une foi aveugle, mais une confiance construite sur la connaissance du qui suis-je. Et alors j'aimerais ce soir parler un peu de cet aspect central qu'est l'esprit, citta. Parce que ce qui se libère, c'est l'esprit. Notre corps, nous allons le perdre. Ça, c'est au moins, c'est ce qu'il y a de plus juste au monde. Nous allons tous mourir. Mais l'esprit peut être libéré. Il peut devenir, il peut ressusciter, il peut être immortel, au-delà de ce qui est conditionné. Et au fond, la transformation de cet esprit, qu'on peut aussi appeler conscience, ou quelquefois, surtout chez les Tibétains, on parle plutôt du cœur, parce que c'est un esprit qui s'intéresse à la bienveillance et aux qualités de compassion. La transformation, c'est que nous passons d'une conscience ordinaire et voilée par la pensée, nous croyons toujours que nous sommes ce que nous pensons, à une conscience libre de cette identification. Parce que la conscience n'est pas une pensée. La conscience n'est pas quelque chose que nous pouvons saisir. Nous pouvons saisir une pensée. Nous pouvons voir une pensée, elle a un temps de vie et elle passe. Hein? Eh ben, celle que je viens de vous dire, elle est finie. Mais la conscience, c'est cet espace de réceptivité qui est rien. Que quelque chose sur quoi les objets de conscience viennent... Les objets de conscience viennent toucher cette conscience qui est pure réceptivité. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Et lorsque je deviens consciente de n'avoir pas été consciente, c'est un moment précieux de pouvoir dire « Ah ouais, j'y étais pas. Ah maintenant j'y suis. » Le corps, dans la conception psychologique bouddhiste, a six sens, parce que le corps est une porte d'entrée pour le monde extérieur. Le corps, c'est ce qui permet le contact, on en a un peu parlé hier. Il y a les cinq sens, et puis il y a l'esprit. Le cerveau, c'est une porte d'entrée. Un souvenir crée un contact. C'est même une bonne partie des contacts créés dans une retraite viennent de l'esprit lui-même. Il y a une pensée et hop, ça me fait quelque chose. Oh. C'est pas seulement ce que je vois, ce que je goûte, ce que j'entends, mais c'est aussi tout d'un coup quelque chose qui arrive du passé dans l'esprit et je suis touchée. Et tout le problème de cette obsession qui peut nous emprisonner vient de ce contact avec un passé qui revient, qui revient, qui recrée le contact. Il y a donc ces contacts, ces ressentis et ces perceptions que nous avons vues hier et qui sont subjectifs. Et en retraite, c'est très évident, hein, ce qu'on appelle ce yogi mind, ou un petit truc qui, dans le monde ordinaire, passerait à peine inaperçu, tout d'un coup devient énorme. Il m'a pas regardé, ou bien il m'a regardé bizarrement, ou bien. Il m'a passé devant, j'ai pas été respectée. Et ça fait des gros problèmes qui sont très précieux. Ils sont réels et comme en fait ils n'ont aucune importance, nous pouvons mieux voir comment il y a cette réactivité qui vient au niveau conceptuel. Comment tout d'un coup nous construisons sur la base du contact, du ressenti et de la perception. Et cette construction est souvent très développée ou trop développée et elle génère du stress. Il y a une forme de pensée très utile, on l'appelle mano, qui sert à organiser, avoir des stratégies, planifier. C'est important d'avoir à disposition cette pensée-là. Si nous voulons organiser une retraite, faire un repas, préparer des vacances. Le problème, c'est que ce même genre de pensée veut essayer d'organiser comment ça se passe là. Et là, ça devient un gros problème, parce que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Nous pouvons contrôler, mais c'est une grosse source de souffrance. Parce que nous empêchons de cette manière la pleine conscience d'observer l'esprit. Je ne peux pas observer ce que le moi contrôle. C'est pour ça que tout ce travail lié à la pensée est essentiel dans une retraite. Amener la lumière de la conscience sur Jack Canfield parle d'une usine à macaroni. Ça fabrique des nouilles, des spaghettis, des cornettes, des pâtes de couleur, des pâtes aux épinards, plein de pâtes différentes. Et on les regarde. Hein. Ah, là, c'est quel genre de pâte, là. Si nous n'avons pas fait ce travail lié à l'observation de la qualité intrinsèque de la pensée, hein, quel genre de pensée c'est, et non pas de toute l'histoire qu'elle me raconte. Alors, nous ne pouvons jamais observer l'esprit parce que nous n'observons toujours que ce que nous en pensons. Et c'est pour ça que le ressenti est tellement important. Qu'est-ce que je sens? Parce que derrière la pensée, il y a toujours un ressenti. Pourquoi est-ce que nous pensons tellement en retraite? C'est parce que nous nous ennuyons à mort. Ouais, je m'ennuie à mort. Alors je fais quoi? Ben, je pense. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il y a au moins quelque chose. Puis alors je souffre parce que je suis là pour être tranquille. Alors que si nous pouvions focaliser sur l'ennui. Ah, oh, là, alors vraiment, je m'ennuie à mort. C'est génial. Je me souviens très bien d'une retraite de 3 mois. J'étais en train de marcher et puis j'ai eu une attaque d'ennui, mais puissante. Puis là, le premier truc qui a mis, ah non, ça ne va pas y faire. Hein. 3 mois comme ça, ça ne va pas y faire. Alors l'esprit a cherché comment survivre, quoi. Hein, comment survivre? Il a trouvé. Je me suis dit, bah ma vieille, tu te laisses mourir d'ennui. Et puis je me suis laissée mourir d'ennui, et c'était génial. C'était extraordinaire. L'expérience était très bonne. Et j'ai vu ce qu'il y avait derrière, c'est ce besoin d'existence. Le Bouddha parle de Bhavatanha, nous avons besoin d'exister. Et c'est une cause de la souffrance, c'est la deuxième vérité, c'est la cause de la souffrance. J'ai besoin d'exister comme je veux exister. Si je ne peux pas exister comme ça, ça ne va pas, ça ne fait pas, ça ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Je souffre, mais je me fais souffrir moi-même, personne d'autre que moi. Donc c'est important de voir quand la pensée est utile et quand elle devient un obstacle. Lorsqu'elle continue à faire ce travail d'organisation, de planification, alors que je viens m'asseoir sur le coussin, je peux commencer à savoir ce qu'il ne faut pas faire avec elle. Et alors je change ma façon de faire et je questionne, qu'est-ce qu'il y a là? Juste maintenant. Ah oui, moi j'aurais voulu qu'il y ait ça. Ah oui, mais il y a quoi? Oui, il y a ça. Ah, ok. Donc, sati n'est pas lié, ça n'est pas quelque chose qui peut être pensé ou vraiment mis en mots. C'est un espace, ce n'est pas vraiment quelque chose. C'est un espace de réceptivité qui peut être d'autant mieux perçu si nous savons venir dans ce ressenti corporel. Et le corps qui est ce premier fondement, il ne peut jamais être trop travaillé. C'est une source puissante de purification, de juste être avec cette respiration qui émerge et passe. Mais il n'y a rien d'autre que l'espace et le silence. Je ne sais plus dans quel sutta le Bouddha dit « Moine, quand une personne n'a pas développé et cultivé la conscience du corps, Mara c'est l'aveuglement, l'ignorance, trouve une opportunité et un support. Quand une personne a développé et cultivé la conscience du corps, Mara ne trouve aucune opportunité et aucun support. » C'est cette importance de la concentration, j'aime pas tellement ce mot, ça fait un peu grande concentration. Mais enfin, de cette pénétration de l'esprit sur un seul objet. Et nous pouvons peu à peu comprendre cet esprit, Chitta, quand nous voyons comment ce moi, par une bonne intention, il aimerait être éveillé, il aimerait avoir des bonnes expériences, il aimerait être bien 24 heures sur 24. Et parce qu'il a cette anticipation ou ce désir, alors il saute par-dessus le ressenti. Et au lieu de venir ici et maintenant avec ce que je sens, je suis toujours un peu trop loin dans ce que je pense de ce qui arrive. Il s'agit donc de vraiment revenir là. Et au fond, dans cet approfondissement de la pleine conscience, l'intérêt pour le désagréable est essentiel. Parce que c'est ça qui me permet de trouver ce chemin hors de la souffrance. Pourquoi ? Parce que je sais quoi faire avec. Tout d'abord, nous admettons la présence de la souffrance. Ça n'est pas horreur, je souffre. C'est dukkha. Deuxièmement, nous ne la nions pas, nous la rencontrons vraiment. Nous la voyons avec un cœur ouvert. Nous essayons de la nommer. C'est quelle sorte de dukkha? Troisièmement, nous venons avec la compassion, c'est-à-dire que nous sortons de cette obsession, ma souffrance. Nous souffrons tous dans une pipe. Comment ça se fait que quand c'est l'autre, je trouve vraiment mal fait, hein? J'aimerais bien qu'il ne souffre pas. Mais enfin, l'instant d'après, j'y pense plus. Venir un peu dans cette compassion, ok, je souffre, mais les autres aussi. On est ensemble. Et ensuite, nous pouvons vraiment étudier la souffrance à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a cet intérêt qui est un facteur de l'éveil. Et c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de facile d'accepter avec un cœur ouvert, sans rejet, ni saisie. Ou ni vouloir, d'être dans cette exploration, dans cette étude de la souffrance. Et ça demande de la patience, du pardon et cette empathie. Ben ouais, on est ensemble, bienvenue au club. Et quand j'essaye de dire, ah non, moi je souffre pas, hein. Ah oui, surtout ce moment pas. Oh, c'est quoi ça? C'est l'expression même de la souffrance, ou plutôt de la protection. Je me protège, comme j'ai pas envie de souffrir, je me protège. Ah non, moi pas, pour moi tout va bien. Quelquefois c'est vrai, heureusement, mais en gros, si on regarde vraiment bien, la vie est quand même assez souvent pas tellement tellement géniale. Donc, lorsque nous venons avec cette pleine conscience à l'instant dans les ressentis, il y a une entrée dans Chitta, dans l'esprit lui-même. Et l'esprit lui-même, il est libre. Les états d'esprit, ça n'est pas l'esprit. Il y a des objets de conscience que je peux voir, mais la conscience elle-même, elle est libre. Et alors, nous pouvons juste nous étonner. Ah, il y a quoi maintenant? Et cet étonnement, c'est une sorte de trésor, hein, parce que tout est trésor. Qu'est-ce que je vais trouver? L'instant est un miracle. et c'est lui qui nous ouvre la porte de l'éveil. Lorsque la saisie se relâche, que le réflexe mental s'apaise, alors nous entrons vraiment dans Sammasati, la conscience, on pourrait dire équanime, ouverte, chaleureuse. Et j'entre en amitié. Et au lieu de rester fixé sur mes préférences, mes conflits, mes oppositions, mes limites et mes doutes. Je me demande, alors vraiment comment c'est quand j'ai des préférences? Ah, juste maintenant il y a du doute. Et je ne confonds plus l'agréable avec la conscience et le désagréable avec l'aveuglement. La conscience, c'est autre chose. C'est bien au-delà. Et alors, nous sommes notre meilleur copain. Et même si on ne le voit pas dans l'instant, on peut le voir après coup. Et il y a cette richesse qui fait que je sais que l'épreuve est toujours à la hauteur de ce que je peux porter. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'exercice de la méditation est là pour que nous nous ouvrions aux autres. Et si nous n'avons pas à l'intérieur de nous-mêmes cette confiance que l'épreuve est à la hauteur de ce que je peux porter, alors nous aurons de la pitié pour l'autre. Nous ne pourrons pas le renvoyer à sa propre confiance intérieure, à la source en lui-même. Et à cette compétence extraordinaire de la nature humaine de savoir quoi faire de la souffrance. Quelquefois, nous pouvons voir après, c'est pas sur le moment, parce que nous sommes pris par l'identification, par la panique, par le trop, c'est trop. Mais après coup, nous pouvons voir, et souvent, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la grande souffrance qui est derrière toutes nos protections? C'est cet immense besoin d'être aimé. Et c'est ça qui crée la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, le besoin d'appréciation. Et nous oublions que nous sommes aimés. Nous ne pouvons pas ne pas l'être. Nous sommes aimés par la conscience elle-même. Et nous avons reçu une goutte de conscience là dans ce corps. Et cette conscience, cette présence, c'est une chaleur immense autour de nous qui nous met debout, qui nous tient debout. Et alors nous pouvons lâcher un peu cette angoisse ou inquiétude d'être assez aux yeux des autres ou de prendre assez de la vie. L'instant devient assez à tous les niveaux. C'est cette image du cœur de la croix. Quand je sais valoriser la conscience et qu'au fond, peu importe ce qui arrive, je sais que je suis là et c'est assez. Et que la conscience peut être large, qu'elle sent l'espace, le silence, le contenant dans lequel nous sommes tous. Il y a cette verticale. Je sens que j'appartiens à l'infini. Ok, je suis paumée sur cette terre, mais j'appartiens à l'infini. Et alors les autres sont précieux, mais ils ne sont pas indispensables. Je sais en même temps être seule et m'ouvrir aux autres. C'est une richesse parce que la codépendance crée beaucoup de dégâts. Alors que il y a beaucoup de bonnes intentions, elle crée beaucoup de dégâts parce que j'ai absolument besoin. C'est Chouraki qui disait à sa femme « Je ne t'aime pas à proprement parler. Parce que si je t'aimais toi, je pourrais te perdre. Je pourrais perdre cet amour. J'aime en toi. Et ainsi notre amour est immortel. Nous aimons en l'autre. Ce que nous aimons, c'est l'amour. » Il y a donc cette qualité de citta, de l'esprit ou la conscience, où je me souviens d'être là avec bienveillance. Et au fond, le travail de la conscience, c'est cette bienveillance, c'est cette réceptivité, cet accueil, cette ouais, ça dit oui. Et il y a cette autre part de l'esprit qui est la pensée, qui planifie, qui organise, qui en fait, se coupe du ressenti pour pouvoir être efficace. Je ne peux pas préparer vraiment comme il faut une recette de cuisine puis être en train de me demander ce que je sens. Je me coupe et je travaille à ce niveau-là, mais je sais ce que je fais. Et ça, c'est son boulot, c'est l'organisation et la stratégie. Et nous ne confondons plus. C'est Milarepa qui dit quelque chose. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais je trouve que c'est super. Prendre les démons pour des démons, voilà le danger. Les savoir vains, voilà le chemin. Les comprendre tels qu'ils sont, voilà la délivrance. Les connaître comme père et mère, voilà leur fin. Les admettre comme création de l'esprit et ils se changent en ornement. Ces aspects étant réalisés, le tout est libéré. C'est beau, non? Alors, ne prenons pas nos démons pour des démons. Ils ne sont que des occasions pour grandir. En fait, ils sont l'éveil lui-même. Lorsque nous parlons de ce refuge dans la pleine conscience ou dans la présence, c'est un des aspects du chemin, quatrième vérité, ce qu'on appelle bhavana. Et j'aimerais juste pour rappel, dire que cette présence a besoin de la concentration, du samadhi. Vous ne pouvez jamais trop être dans la concentration. Peut-être sur une courte retraite, on le sent moins, mais sur une longue retraite, on sent très bien comment la pleine conscience devient un peu coussi-coussa et hop, faut que je mette un peu d'huile dans le moteur, au niveau du samadhi. En gardant un seul objet de conscience et en stabilisant l'attention sur un objet. Et les forçages, il y a trois aspects dans cette partie du chemin. C'est la conscience, la pleine conscience, la concentration et les forçages. Et quand nous questionnons dans l'assise, quel est les forçages? Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais souvent l'intuition nous dit quoi faire. L'intuition nous dit « Ah, viens juste sur la respiration, rien d'autre. » Et tout le reste, je dis non. Ou quelquefois, Ah ben là, il y a un sacré ressenti. Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Est-ce que tu y vas? Tu veux pas? Ouais, ok, c'est où? Hein, comment c'est? Et il y a ce travail au niveau de la sensibilité où je prends le temps. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de pensées. Et puis, si je questionne quel est l'effort sage, ben là, on peut regarder ce qu'il y a là. C'est quel type de pensée? Et au lieu de penser que c'est pas bien, ah ben, je suis contente, il y a des pensées, je vais les observer. L'image, c'est d'être comme un chat au bord du trou d'une souris. Et j'attends la pensée suivante. Laquelle va venir? Tac, celle-ci. Et maintenant? Bah zut, pas de pensée. Ah ouais, c'est une pensée. Et bien sûr, sans oublier la grande valeur de l'unification entre le corps et l'esprit avec les paroles de metta, les paroles de compassion, de refuge ou même d'équanimité quand on approfondit un peu plus ou de joie. C'est important de ne pas se perdre en testant trop de choses, plutôt en choisir une et s'ennuyer. Aller au bout, approfondir. Et pour approfondir des paroles de compassion ou des paroles de bienveillance ou de refuge, ben, ça part et puis j'y reviens. Ça part et puis j'y reviens. C'est un exercice. Je le fais comme exercice. Et lorsque je le fais, par exemple, dans la méditation marchée, j'essaye d'intégrer vraiment la parole à l'expérience corporelle. Quand je marche, les paroles sont là avec la marche. Donc la première chose, c'est de savoir que nous pouvons lâcher l'extérieur. L'extérieur n'est jamais le problème, même s'il paraît extrêmement important. Mais nous pouvons venir à l'intérieur et construire à l'intérieur cette En anglais, on dit home. C'est joli, home. C'est une maison, mais c'est une maison cosy. C'est cette maison de la pleine conscience. Et c'est notre refuge. C'est le seul refuge que je peux volontairement installer en moi et qui me connecte immédiatement ce qui est au-delà. C'est Ramakrishna qui dit: seule votre présence toute nue est l'abondance inépuisable que vous cherchez désespérément. Oh, ça, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où je le tire, mais ça fait rien, je vous le dis. La présence sans effort et sans choix est notre véritable nature. Si nous pouvons l'atteindre ou y demeurer, c'est bon. Généralement, cela ne peut pas être atteint sans effort, l'effort de la méditation délibérée. Toutes les vieilles tendances mènent l'esprit au loin et le tournent vers les objets extérieurs. Toutes ces pensées doivent être abandonnées et l'esprit doit se tourner à l'intérieur. Pour cela, l'effort est nécessaire pour la plupart des gens. C'est la nature de l'esprit de se balader. Vous n'êtes pas l'esprit. L'esprit monte et descend, s'exalte, se déprime, il est impermanent et transitoire, alors que vous, vous êtes éternel. Et ces concepts liés aux paroles du Bouddha ou à une sagesse universelle. D'abord, ils résonnent vaguement en nous. On a l'impression, là, c'est intéressant. Et puis on en discute. Je me souviens quand j'étais jeune, les heures de discussion sur le non-moi. Parce que le moi n'avait pas tellement envie, quoi. Non-moi, c'est pas cette histoire. Et puis après, ça commence à faire sens, et ça fait sens pour une seule raison, c'est que je mets ces concepts en lien avec mon expérience. Je vérifie. Le Bouddha a dit, ne croyez absolument rien de ce que je vous partage. Mais vérifier. Et lorsque je les ai traduits à ma sauce, avec mon conditionnement, alors la pensée peut les redire d'une manière extrêmement claire. Parce que même si chacun d'entre nous a un chemin qui est unique, ce que véhiculent les paroles et qu'il n'est pas possible de vraiment communiquer en mots, est connu de chacun le nom. Donc, nous savons. Mais ce qui est communiqué, c'est quelque chose qui est au-delà des mots. Donc, nous ne pourrons jamais dire avec des mots ce qu'elle éveille. Nous ne pouvons que nous approcher. Parce que l'éveil ne peut qu'être vécu, il faut un corps humain pour que l'éveil soit vécu, et il est holistique, il est en même temps extérieur, intérieur, il est tout. C'est pour ça que c'est pas la peine, quand on écoute un enseignement, de vouloir trop tout comprendre avec la tête. On peut laisser tranquillement résonner ce qui fait sens, et puis vous allez entendre, re-entendre, de nouveau les cinq obstacles, de nouveau les quatre vérités. Mais dans un enseignement, quand on a fait plusieurs retraites, il y a peut-être un truc qu'on entend et puis qui vraiment fait sens. Ah, ça, c'est diamant. Je finis avec la parole qui est dans le couloir. Vous la relirez. Elle est très belle. C'est une parole d'Ajahn Chah qui vient d'un enseignement qui s'appelle, je crois, Notre vraie demeure. Nous construisons des maisons de briques et de bois, mais le Bouddha a enseigné que ce genre de demeure n'est pas notre vraie demeure. Ce sont des maisons du monde avec les lois du monde. Notre vraie demeure et la paix intérieure. Que nous ne pouvons expérimenter que juste maintenant. C'est pas grand chose la paix. Hein. C'est juste ce geste-là. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes en silence.